9. Susanna était assise à califourchon sur le TCS, à la fenêtre du cabanon où elle se cachait, ne s'inquiétant plus d'être aperçue. Les détecteurs de fumée, au moins 3, miaulaient à tue-tête. Une alarme incendie toussait encore plus fort. En provenance de la maison d'Amélie, elle en était presque certaine. Comme en réponse à cet appel, une série de klaxons tonitruants se déclenchèrent au bout du complexe, côté Plaisanteville. Une volée de cloches se joignit bientôt au vacarme. Avec tout ce remue-ménage au sud, la jeune femme embusquée au nord du Devartois ne s'étonna pas de ne voir que le dos des 3 gardes postés dans les tours de guet recouvertes de lierre. 3 lui paraissait peu, mais c'était déjà 5% de l'effectif total. Un bon début. Susanna baissa les yeux sur le barillet de son arme, puis les posa au sol et se mit à prier.
« Mon Dieu, accordez-moi de viser juste. Viser juste. »
Bientôt. C'était pour bientôt. 10. Finley agrippa le bras du maître. Pimley se dégagea et se dirigea en direction de sa maison, fixant d'un air incrédule la fumée qui se déversait à présent à gros bouillons de la fenêtre du côté gauche. « Patron !» s'écria Finley en lui attrapant de nouveau le bras. « Patron, ne vous occupez pas de ça. C'est des briseurs qu'il faut s'inquiéter. Des briseurs !» Mais il ne réussit pas à se faire entendre. Contrairement au beuglement assourdissant de l'alarme de la maison d'Amélie. Pimley se retourna dans cette direction et l'espace d'une seconde, son regard croisa les petits yeux noirs d'oiseau de Jacqueline. Il n'y vit rien d'autre que de la panique, ce qui eut l'effet pervers mais bienvenu de calmer Pimley lui-même. Des sirènes et des alarmes dans tous les coins. Et un klaxon aux pulsations sonores régulières qu'il n'avait jamais entendu auparavant. En provenance de Plaisanteville. « Allons, patron !» supplia presque Finley Otego. « Il faut qu'on s'assure que les briseurs vont bien. »«
De la fumée !» s'écria Jacqueline en battant l'air de ses ailes noires et absolument inutile. « De la fumée à la maison d'Amélie, de la fumée à Féveral aussi !»
Pimley l'ignora. Il extirpa le pacemaker de son croc de débardeur, se demandant en un éclair quelle intuition le lui avait fait prendre. Il n'en avait aucune idée, mais il se réjouit du poids de l'arme dans sa main. Derrière lui, Tassa beuglait, Tammy aussi, mais Pimley ne se préoccupa d'aucun d'eux. Son cœur battait furieusement dans sa poitrine, mais il avait retrouvé son calme. Finley avait raison. Seul comptaient les briseurs pour le moment. S'assurer qu'ils n'allaient pas perdre le tiers de leur médium surentraîné dans un court-circuit électrique ou un acte de sabotage foireux. Il adressa un signe de tête à son chef de la sécurité et ils partirent en courant en direction de la maison d'Amélie, avec Jacqueline jacassant et battant des ailes dans leur dos comme un rescapé d'un dessin animé de la Warner Bros. Plus haut, Gasky braillait. C'est alors que Pimley, au New Jersey, entendit un bruit qui lui glaça les sangs. Un « pan-pan-pan » rapide et saccadé. Si un abruti était en train de tirer sur ses briseurs, eh bien la tête de cet abruti finirait au bout d'une pique par tous les dieux. Il ne lui avait pas encore traversé l'esprit que ce puissent être les gardes et non les briseurs qui subissaient l'attaque. Finley, pourtant légèrement plus rusé, n'y avait pas pensé non plus. Il se passait trop de choses, trop vite. 11. À l'extrémité sud du complexe, le klaxon poussait son cri syncopé avec une violence à faire exploser les tympans.
« D'où Jésus ?»
s'exclama Eddie sans entendre le son de sa propre voix. Dans les miradors, les gardes s'étaient détournés, scrutant le nord. Eddie ne voyait pas encore de fumée. Peut-être les gardes le pouvaient-ils, en revanche, depuis leur poste d'observation en hauteur. Roland agrippa l'épaule de Jake, puis désigna le wagon de marchandises ligne SOO. Jake acquiesça et rampa dessous, ôté sur ses talons. Roland tendit les deux mains en direction d'Eddie. Reste où tu es. Puis suivit Jake. De l'autre côté du wagon, le garçon et le pistolero se relevèrent côte à côte. Les sentinelles auraient pu les voir clairement si l'attention de ces vaillants défenseurs n'avait pas été distraite par les détecteurs de fumée et les alarmes beuglant aux quatre coins du complexe. Soudain, la façade entière de la compagnie électronique de Pleasantville disparut dans une crevasse dans le sol. Un camion de pompiers rouge vif et chromé jaillit du garage, jusqu'ici camouflé. Une rangée de loupiottes rouges pulsait le long de son flanc allongé et une voix amplifiée se mit à hurler « Dégagez le passage! Laissez passer l'équipe anti-incendie Bravo! Dégagez le passage! Laissez place à l'équipe d'intervention Bravo !» Il ne devait pas y avoir de fusillade de ce côté du Devard, pas encore. L'extrémité sud du complexe devait paraître sûre aux pensionnaires de plus en plus effrayés d'Algul Ciento. « Ne vous inquiétez pas, les amis. Voici votre havre contre la tempête de mer d'inattendu qui s'abat sur vous en ce jour. » Le pistolero alla pêcher un rizza dans la réserve de Jake et fit signe au garçon d'en prendre un lui aussi. Puis Roland désigna le garde dans la tour de droite, faisant une nouvelle fois signe à Jake. Le garçon hocha la tête, croisa le bras en travers du torse et attendit que Roland lui donne le feu vert. 12. Une fois que tu entendras la sirène qui annonce la relève des équipes de nuit, avait dit le pistolero à Susanna, prends-les par surprise. Fais autant de dégâts que possible, mais ne les laisse pas deviner qu'ils affrontent une seule personne, au nom de ton père. Comme s'il avait besoin de le lui préciser. Elle aurait pu avoir les trois gardes du guet dans leur tour, tant que résonnait la sirène, mais quelque chose lui dit d'attendre. Quelques secondes plus tard, elle eut l'occasion de s'en réjouir. La porte arrière de la maison reine Anne s'ouvrit à la volée avec une telle violence que le gond supérieur éclata. Des briseurs jaillirent en vrac. S'accrochant à leurs voisins dans un accès de panique, « Voici donc les destructeurs en puissance de l'univers, » se dit-elle. « Rien que des moutons. » Et parmi eux, elle aperçut une demi-douzaine de ces horreurs à tête d'animaux, et au moins quatre de ces humanoïdes monstrueux avec leurs masques. Susanna commença par le garde de la tour ouest et avait déjà changé de cible, visant les deux de la tour est, avant que la première victime de la bataille d'Algul Ciento ait basculé par-dessus la rambarde et se soit écrasée au sol, la cervelle lui dégoulinant dans les cheveux et le long des joues. La mitraillette Coyote, en position intermédiaire, crachée par lente rafale de trois balles. Pan, pan, pan. Le Taïn et l'ignoble, dont la tour est se mirent à tourner en sens inverse l'un de l'autre, comme des ballerines en plein ballet. Le Taïn s'effondra sur la passerelle qui saignait la tour. L'ignoble tituba jusqu'à la rambarde, puis bascula dans le vide, les talons de ses bottes tendus vers le ciel, puis piqua tête la première vers le sol. Elle entendit le crack de sa nuque qui se rompait. Deux ou trois des briseurs qui grouillaient à la porte aperçurent la chute de ce malheureux et poussèrent un hurlement.
« Les mains en l'air !»
Elle reconnut la voix de Dinky.
« Les mains en l'air, si vous êtes briseur !»
Personne ne discuta l'idée. En pareille circonstance, quiconque avait l'air de savoir ce qui se passait se retrouvait immédiatement aux commandes. Certains des briseurs, mais pas tous, pas encore, levèrent les mains. Ce qui ne fit aucune différence pour Susanna. Elle n'avait pas besoin de bras en l'air pour distinguer un mouton d'un bouc. Sa vision jouissait soudain d'une clarté redoutable. Elle actionna la molette, la pressant de la position rafale à tir simple et se mit à viser les gardes qui avaient surgi du bureau parmi les briseurs.
« Taïn, quand toi ? Celui-là, c'est bon. Une hume, mais ne la tue pas, c'est une briseuse, même si elle n'a pas les mains en l'air. Ne me demande pas comment je le sais, mais je le sais. »
Susanna appuya sur la détente de la coyote, et la tête de Lume, située juste à côté de la femme en pantalon rouge vif, explosa dans une brume de sang et d'os. Les briseurs braillaient comme des enfants, regardant autour d'eux, les yeux leur sortant des orbites, les mains en l'air. Et Susanna entendit de nouveau Dinky, mais pas sa voix physique, cette fois-ci. C'était sa voix mentale, et elle était bien plus sonore. « Tous au sud, mains en l'air, vous aurez la vie sauve. » C'était le signal pour qu'elle sorte de sa cachette et se mette en marche. Elle avait eu 8 des mauvais garçons du roi cramoisi, en comptant les 3 dans leur mirador. Non pas que ce fût tellement un exploit, vu leur état de panique, et elle n'en voyait pas d'autres, du moins pour l'instant. Susanna actionna manuellement l'accélérateur de la poignée et engagea le TCS vers l'un des autres cabanons abandonnés. La reprise de l'engin était tellement sensible qu'elle faillit bien dégringoler du siège. Tout en essayant de ne pas rire, et en riant quand même, elle hurla à plein poumon avec la diction à la Detta Walker la plus ordurière qu'elle réussit à produire. « Sautez de là, bande d'enculés! Au sud, tout le monde! Levez les mains, qu'on vous confonde pas avec ces salopards! Tous ceux qui lèvent pas les mains vont se trouver avec une balle dans la tête, vous pouvez me croire !» Tout en braillant ainsi, elle passa la porte du cabanon et fit par inadvertance frotter un des pneus ballons de son véhicule contre le chambranle. Pas assez fort, heureusement, pour faire chavirer le véhicule. Dieu merci, car elle n'aurait jamais eu la force de le remettre d'aplomb seul, dans le cas contraire. À l'intérieur, une lacère était disposée sur un trépied pliable. Elle poussa la molette sur marche et se demanda si elle avait autre chose à faire avec la molette alternatif, lorsque le canon de l'arme émit un rayon aveuglant de lumière rouge-pourpre qui traversa tout droit la triple clôture jusqu'au complexe et alla forer un large trou béant dans le toit de la maison d'Amélie. Susanna eut l'impression qu'il avait la taille d'un cratère d'obus.
« Très bien, » pensa-t-elle. « Il faut que je mette les autres en route. »
Elle se demanda cependant si elle en aurait le temps. Déjà d'autres briseurs se ralliaient au discours de Dinky, le diffusant de plus en plus fort. « Tous au sud, mains en l'air, vous aurez la vie sauve. » Elle fit basculer la molette de la coyote sur automatique et inclina l'arme vers le point le plus haut du dortoir, le plus proche pour sécuriser le tir. Les balles gémirent et ricochèrent. Du verre se brisa. Des briseurs hurlèrent et déboulèrent par le côté de la maison d'Amélie, les bras en l'air. Susanna aperçut Ted du même côté. Il était difficile à rater car il avançait à contre-courant. Dinky et lui se donnèrent une brève accolade, puis ils levèrent les mains et rejoignirent le flot de briseurs, s'acheminant vers le sud, eux qui perdraient bientôt leur statut de star, pour ne devenir qu'un groupe de réfugiés luttant pour leur survie sur une terre sombre et empoisonnée. Elle en avait eu 8, mais ça ne suffisait pas. La faim s'était emparée d'elle, cette faim sèche. Ses yeux voyaient tout. Elle espérait que d'autres taïnes, d'autres ignobles et d'autres gardes humes apparaîtraient sur le côté de la maison d'Amélie. Elle en voulait plus. 13. Chimiruiz habitait au dortoir Corbette, qui se trouvait être le dortoir exact que Susanna, sans le savoir, venait de plomber d'au moins 100 de balles. S'il s'était trouvé sur son lit, il aurait très certainement été tué. Au lieu de quoi, il était à genoux, au pied de son lit, en train de prier pour que ses amis aient la vie sauve. Il ne leva même pas la tête lorsque la fenêtre vola en éclats. Mais ses supplications redoublèrent. Il entendait les pensées de Dinky. « Tous au sud !» lui martelait le crâne, puis il perçut d'autres flux de pensées qui s'y ralliaient. « Mains en l'air !» formant un fleuve. Puis ce fut la voix de Ted, pas seulement à l'unisson des autres, mais les amplifiant, transformant ce qui avait été un fleuve. « Vous aurez la vie sauve !» en océan. Sans en avoir conscience, Chimy modifia le contenu de sa prière. « Notre Père, et protégez mes copains, devint « Tous au sud, les mains en l'air, vous aurez la vie sauve !» Il ne s'interrompit même pas lorsque les réservoirs de propane, situés derrière la cafétéria de la maison d'Amélie, explosèrent dans un vacarme ahurissant. 14. Gangli Tristum. Pour vous, ce sera docteur Gangli, je vous prie. Grand merci. Était par bien des aspects l'homme le plus craint de la maison d'Amélie. C'était un cantois ayant pris, par perversité pure et simple, un nom taïne plutôt qu'humain. Et il tenait l'infirmerie au troisième étage de l'aile ouest d'une main de fer et sur des rollers. L'ambiance était plutôt détendue dans les locaux quand Gangli remplissait de la paperasse dans son bureau où faisait ses visites, ce qui la plupart du temps revenait à saluer des briseurs enrhumés dans leur dortoir. Mais lorsqu'il sortait, tout l'étage, infirmières et employés d'entretien aussi bien que patients, se taisaient instantanément. Soudain nerveux, un nouveau venu pouvait rire en apercevant pour la première fois cette chose courtaude à large mâchoire et au teint mat, descendant lentement l'allée centrale entre les lits, les bras croisés sur le stéthoscope qui lui pendait autour du cou, le bout de sa blouse blanche flottant derrière lui. Un des briseurs avait un jour lâché « On dirait John Irving qui aurait raté son lifting. » Cependant, celui pris en train de rire ne rirait plus jamais. Le docteur Gangli avait la langue bien pendue et personne ne se moquait impunément de ses rollers. En ce moment, il ne glissait pas réellement dessus, mais il volait littéralement le long des allées, ses roues d'acier, car son équipement datait de bien avant les rollerblades, grondant sur le bois dur.
« Tous les papiers !» hurlait-il. « Vous m'entendez ? Si je perds un seul dossier dans tout ce bordel, un seul dossier, bon Dieu, je boufferai les yeux de quelqu'un pour accompagner mon thé cet après-midi !»
Bien entendu, les patients étaient déjà partis. Il les avait sortis du lit et dirigés vers l'escalier dès le premier cri du détecteur, dès la première bouffée de fumée. Un certain nombre de garçons de salle, ces sales petits dégonflés, il les connaissait tous jusqu'au dernier, et un rapport complet serait fait sur eux, leur venue. Avait fui avec les malades, mais il en était resté 5, dont son assistant personnel, Jack London. Gangli se sentait fier d'eux, même si c'était difficilement décelable dans les échos impérieux de sa voix, tandis qu'il allait et venait dans les allées, allait et venait dans la fumée qui s'épaississait.
« Prenez les papiers, vous m'entendez ? Vous avez intérêt par tous les dieux qu'on n'ait jamais vu debout ou à quatre pattes. Vous avez intérêt !»
Un éclair rouge traversa la vitre de la fenêtre. Une arme, de toute évidence, puisque le projectile alla faire exploser le mur de verre qui séparait le bureau de Gangli de la salle et enflamma instantanément son fauteuil favori. Gangli se baissa et glissa sous le rayon, sans ralentir une seconde.
« Nom de Gan !»
s'écria l'un des garçons de salle. C'était un hume extraordinairement laid, les yeux saillants de son visage pâle.
« Qu'est-ce que c'était que ça, bon... »«
On s'en fiche !» aboya Gangli. « On s'en fiche de ce que c'est, espèce d'abruti fini à la pisse. Trouve-moi ces foutus papiers. Trouve-moi ces foutus papiers, bordel de merde !»
Quelque part devant le bâtiment, sur l'allée, il entendit approcher un véhicule de secours, hurlant et brinque-ballant.
« Dégagez le passage. Laissez place à l'équipe d'intervention Bravo !»
Gangli n'avait jamais entendu parler d'une quelconque équipe d'intervention Bravo. Mais il y avait tant de choses qu'on ne savait pas par ici. Après tout, il utilisait à peine le tiers de l'équipement qui encombrait ses propres quartiers chirurgicaux. Peu importait l'essentiel pour l'instant. C'est alors que les arrivées de gaz derrière la cuisine explosèrent. Il y eut un vacarme assourdissant, qui parut monter de juste en dessous d'eux, et Gangli Tristum fut projeté dans les airs, les roues métalliques de ses patins tournant toujours. Les autres voltigèrent également et soudain, l'air enfumé se remplit de feuilles volantes. En les voyant ainsi, sachant qu'ils allaient tous brûler et qu'il aurait de la chance s'ils ne subissaient pas le même sort, le docteur Gangli n'eut qu'une pensée, claire comme de l'eau de roche. La fin était en avance. 15. Roland entendit l'ordre télépathique. « Tous au sud, main en l'air, vous aurez la vie sauve. » Battre sous son crâne. L'heure était venue. Il adressa un signe de tête à Jack et les Orizas se mirent à voler. Leur sifflement surnaturel parut dérisoire au milieu de la cacophonie générale. Pourtant, l'un des gardes dut entendre quelque chose approcher, car il commença à pivoter, jusqu'à ce que le bord affûté du plat vienne le décapiter. Sa tête bascula en arrière et dégringola, les cils battant toujours sous l'effet de la surprise. Le corps sans tête avança de deux pas, puis, les deux bras par-dessus la rambarde, bascula dans le vide. Le sang giclait de son cou tranché en un flot criard. L'autre garde était déjà à terre. Eddie roula sans peine sous le wagon ligne SOO et bondit sur ses pieds côté complexe. Deux autres camions de pompiers automatiques surgirent de la station, elles aussi dissimulées auparavant par la façade de la boutique d'électronique. Ils n'avaient pas de roues et paraissaient avancer sur des coussins d'air comprimés. Quelque part vers le nord du campus, car c'est ainsi que l'esprit d'Eddie persistait à dénommer le Devartois, une explosion fit trembler l'air. Bien, charmant. Roland et Jake s'armèrent de nouveaux orizas dans le sac en osier et s'en servirent pour trancher dans le vif de la triple clôture. Le barbelé sous haute tension céda dans une salve de grésillements et de craquements, accompagnée d'un bref éclair électrique bleuté. Puis ils pénétrèrent à l'intérieur, se déplaçant rapidement et sans un mot. Ôtés, galopant toujours sur les talons de Jake, ils dépassèrent les tours de guet, à présent sans surveillance. Ils débouchèrent sur un passage qui se glissait entre l'épicerie Henry Graham et la librairie de Pleasantville. Au bout de la ruelle, ils constatèrent que la rue principale était totalement déserte, bien qu'on pût encore sentir dans l'air un relent piquant et électrique, une odeur de station de métro. Pensa Eddie, provenant des deux derniers camions de pompiers, ajoutant à la puanteur ambiante. Au loin, des sirènes incendies poussaient des cris en boucle et les détecteurs de fumée sonnaient toujours. Ici, à Pleasantville, Eddie ne pouvait s'empêcher de penser à la rue principale de Disneyland. Pas un papier gras dans le caniveau. Pas de graffiti grossier sur les murs, pas même un voile de poussière sur les vitres des fenêtres. C'était là que venaient les briseurs souffrant du mal du pays pour prendre une petite bouffée d'Amérique, pensa-t-il. Mais est-ce qu'aucun d'eux ne voulait mieux, quelque chose de plus réaliste que cette nature morte fantastique en plastique? Peut-être qu'avec des gens sur le trottoir et dans les boutiques, les lieux avaient l'air plus engageants, mais c'était difficile à croire. Du moins, lui avait du mal à le croire. Mais c'était peut-être juste son chauvinisme de gars de la ville. En face des chaussures de Pleasantville, de mode du gay Paris, d'actuelle coiffure ou de cinéma le bijou, « Venez donc, il fait frais à l'intérieur », disait la banderole accrochée sous l'auvent. Roland leva la main, dirigeant Eddie et Jack de ce côté de la rue. C'était là. Si tout se passait comme il le souhaitait, ce qui n'était pratiquement jamais le cas, qu'ils monteraient leur embuscade. Ils traversèrent en s'accroupissant, ôtés, ne quittant pas Jack d'une semelle. Jusqu'ici, tout semblait se dérouler comme sur des roulettes, ce qui rendait le pistolero vraiment nerveux.